Hello. I say, how about a little kiss? Don't be unkind.
Bienvenue dans la seconde émission seconde partie d'émission d'Agora FM. Donc, on a le plaisir de recevoir Sébastien Gendron. Sébastien Gendron, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup de vous joindre à nous. Alors, on expliquera un petit peu plus tard pourquoi on a changé de générique ce soir et pourquoi on a changé pour Divine Comedy. Mais on va parler avant de votre dernier roman. Je rappelle que l'année dernière, on avait d'ailleurs déjà parlé d'un roman qui nous avait fait beaucoup rire, qui s'appelait Taxi Take Off Landing aux éditions Baleine, où vous tordiez un peu beaucoup même les codes du polar pour nous livrer un roman d'aventure complètement hilarant. Vous récidivez aujourd'hui avec Quelque chose pour le week-end. Je précise, c'est le titre du roman, toujours aux éditions Baleine, avec en couverture un magnifique Union Jack hautement reconnaissable chez votre libraire préféré. Car l'étrange histoire que vous racontez se passe en Angleterre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ce pays? Pourquoi Kirkby, dont vous dites, première phrase qui m'a fait beaucoup rire, Kirkby est une bourgade cossue du Yorkshire, en bord de mer du Nord, dans laquelle il n'est pas nécessaire de paraître autre chose qu'anglais.
Pardon, excusez-moi, j'ai un rhume.
Eh ben, on est deux.
Ouais, bah super, ça se transmet par la ligne. Pourquoi l'Angleterre? En fait, je sais pas trop, je pense que ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire un truc sur les Anglais, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, où je suis allé trop peu de fois. Et puis...
Remarquez, maintenant, après ce livre, peut-être que vous y allez plus, hein.
Ouais, je vais peut-être me faire canonner à deux points. Non, voilà, j'avais envie d'écrire un bouquin sur les Anglais. J'aime beaucoup l'Angleterre, j'aime beaucoup les films anglais, et puis j'aime beaucoup la musique anglaise aussi. Et puis c'était le moyen de clore une espèce de trilogie involontaire. Quand j'ai écrit Moradonis, mon poulpe, ça se passait dans une petite île des Antilles. Taxi Take Off and Landing, ça se passe dans une petite île du côté des West Indies, donc pas très loin des Antilles françaises. Et puis, ben voilà, il me restait une île pour me rapprocher un petit peu de la France.
Là, vous avez pris une grande île quand même, hein.
Ouais, c'est une grande île, mais ça reste une île quand même. Et puis, ils ont un bon esprit insulaire, de toute façon, on le sait bien.
Ah oui.
Donc, voilà pourquoi l'Angleterre. Et puis, Kirkby, bah, parce qu'il fallait que je prenne quand même une ville bourgeoise. Voilà, parce que ça m'amusait d'aller foutre le bordel chez les bourgeois anglais. Voilà.
Ah oui, vous y réussissez. Enfin, vous. On va voir que c'est peut-être pas vous d'ailleurs, hein, finalement. Il y en a d'autres dans le roman. Et donc, dans toutes ces raisons, il y a peut-être aussi l'envie de s'amuser avec cet humour si particulier, si british. Parce que le ton change un peu par rapport justement aux deux romans dont vous parlez de la trilogie, La mort à Denise et Taxi Take Off Landing. Il y a un ton un petit peu plus doux, amer, tendre.
Ouais, parce que j'ai malgré tout évidemment une grande tendresse pour les Anglais. Puis les Anglais, j'ai jamais réussi à décortiquer leur humour. Il me fait poiler. Je regarde les Monty Python depuis que je suis enfant. Cette espèce de chose complètement absurde et tordue que j'ai tenté de. Et puis surtout ce flegme, cette capacité à être extrêmement flegmatique dans l'humour. À chaque fois que j'ai croisé des Anglais, ça a été toujours le premier rapport, même quand on se connaissait pas, c'était tout de suite de faire de l'humour, mais de l'humour grinçant et surtout sans desserrer les lèvres. lèvres. Donc ils ont un espèce de flegme dans tout et surtout dans l'humour. Donc voilà, le challenge ce coup-ci c'était de tenter un peu justement de d'arrêter avec mon humour un peu franfouillard et puis d'essayer de me frotter à cet humour à froid très ben voilà qui ne ressemble qu'à eux quoi. Voilà.
Alors justement, flegmatique, un personnage qui ne l'est qu'il est beaucoup dans le roman, même si de temps en temps, quand même, il lose his temper, on peut dire, c'est Laurence Paxton. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, en quelques mots, qu'est-ce qu'arrive à ce brave Anglais retraité, qui vient de prendre sa retraite, au début de ce roman, s'il vous plaît?
Alors, Laurence Paxton se promène sur une plage de son village, donc le Kirk Bay, vers 1h du matin, nuit noire, en plein mois de février. Et en fait, il est là parce qu'on sent qu'il en a un peu marre, il est à la retraite depuis 2 mois. Et à la lueur de sa lampe de poche, il va rencontrer 2 choses consécutivement. La première, c'est un sac de plâtre éventré. Et la seconde, c'est un troupeau de pingouins. Ce qu'il identifie comme étant
de grands pingouins.
Alors voilà,
comme on dit les grands bretons, ce sont de grands pingouins.
On va savoir par la suite que ce sont de grands pingouins, qui est une race qui a disparu depuis 1844 en l'occurrence, et qui rejaillit comme ça, on ne sait pas très bien pourquoi. Et en fait, il va s'avérer très rapidement que le plâtre en question, bah, c'est pas du plâtre, c'est de la cocaïne. Il va s'en rendre compte à ses dépens parce qu'il va vouloir sentir le produit pour bien identifier qu'il s'agit bien de plâtre.
Et ben
en fait,
non.
Comme il a un rhume, il est obligé d'inspirer un peu fort pour sentir, donc il a de la cocaïne, il en inhale à forte dose, et à partir de ce moment-là, il va décider 2 choses. La première chose, c'est évidemment de piquer toute la cam qui est sur la plage, parce qu'il n'y a pas qu'un sac, il y en a 500 kilos, qui ont été balancés par la mer et qui ont été rejetés sur le rivage, et de tuer sa femme. Voilà.
Oui, ça c'est la dernière idée qui lui sort, la retraite lui est pénible.
Voilà, exactement. Alors c'est histoire de dire que la drogue c'est pas très bien, ça peut donner des idées pas terribles. Donc voilà. Donc il décide de piquer la cam, ça il va y arriver, et puis dans le même temps, il va décider de tuer sa femme. Ça va lui prendre 300 pages, par contre. Voilà.
Voilà, à peu près 300 pages. Et on retrouve des échecs successifs. D'ailleurs, vous avez évoqué les Monty Python. C'est vrai que moi, je pensais à ce film qui m'a toujours fait hurler de rire, qui s'appelle Un poisson nommé Vanda.
Ah oui, bah oui.
Où de la même façon, un des héros essaye de tuer quelqu'un et il va tuer tout le monde, y compris des petits chiens, mais voilà, pas les choses qu'il faut, quoi. Donc là aussi, c'est pareil, il va y avoir beaucoup, beaucoup de dégâts.
Ouais, énormément, oui.
Et ce qu'on a oublié de dire, c'est que les pingouins sont arrivés avec la cam et ils sont aussi tombés dedans. Donc les pingouins sont camés aussi.
Voilà, les pingouins sont camés, donc Laurence Paxton va quand même se retrouver avec une armée de pingouins au cul qui ont un bon odorat et qui vont chercher la cam pendant 300 pages aussi, donc ils vont foutre la merde dans Kirk Bay.
Dans Kirk Bay, oui.
Voilà, ça va être une catastrophe, quoi.
Ah oui, c'est le mot. On pourra même aller dire jusqu'à un cataclysme, parce qu'il y a des scènes totalement improbables, sorties d'un cerveau illuminé, on peut dire,
malade.
Parce que vraiment, il y a des scènes, il fallait les inventer. Et puis, il va inventer, donc Laurence Paxton va inventer des astuces pour essayer de se débarrasser de sa femme tout en étant la victime désignée. Et il va échouer lamentablement. Mais pourquoi en fait des pingouins? C'est parce qu'ils ont des longs nez pour plonger dans la coque ou quoi?
Non, alors en fait, l'histoire des pingouins, moi j'ai commencé par écrire l'histoire de ce mec-là qui voulait absolument tuer sa femme et qui n'avait pas envie de le faire lui-même et qui voulait se prendre une tierce personne pour le faire. Mais en fait, il manquait un truc et j'avais envie de raconter une autre histoire en même temps. Et en fait, il y a quelques années, j'ai vu un documentaire sur Thalassa qui m'a absolument fasciné, que ça se passe en Afrique du Sud, dans un petit village qui ressemble à bien des égards à Kirk Bay, qui s'est fait envahir par des pingouins, pas des grands pingouins, les grands pingouins, oui. Ça n'existe plus, par des petits pingouins, des pingouins tordas. Et en fait, il y a eu une véritable guerre dans ce village parce que le ministère de l'Environnement s'en est mêlé parce qu'il voulait protéger ses oiseaux, les habitants n'en voulaient pas chez eux et la mairie était pris le cul entre deux chaises. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse une histoire avec ça. Et ça m'a traîné en tête pendant très longtemps, je savais pas très bien comment l'utiliser, machin. Et puis, au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte que j'arrivais à la fin de mon histoire avec ce pauvre retraité qui veut tuer sa femme, je me suis dit, non mais voilà, mais c'est là qu'il faut qu'ils arrivent, mais pas moi. Et voilà, c'est venu comme ça. Et puis du coup, c'est pas resté de simples pingouins, sinon je me serais fait chier. Donc c'était des grands pingouins, parce qu'il fallait qu'il y ait un enjeu planétaire, en fait. Voilà.
Oui, alors c'est marrant, parce que justement, la prochaine question que j'allais poser, c'était comment a débuté le roman. Donc vous nous avez donné une des clés, parce que c'est vrai que moi, j'avais l'idée comme ça, qu'il y avait cette image au début du roman, donc on parlait du flegme britannique, Laurence Paxton, qui... cherche quelque chose pour le week-end. On va quand même expliquer le titre dans une minute. Et puis, qui va dans la cabane au fond du jardin, parce qu'apparemment, il y a un peu de ramdam, qui ouvre la porte, qui voit un pingouin, qui referme la porte et qui revient voir sa femme.
Voilà.
Là, j'avais vraiment l'impression que vous étiez parti de ça, en fait.
Non, je suis parti de... Donc, je suis un grand fan du groupe anglais Divine Comedy depuis des années et des années. Et il y a cette chanson qui date de 95, qui s'appelle Something for the Weekend, donc qui veut dire quelque chose pour le week-end. Et je me disais, cette histoire est quand même assez rigolote, il faut que j'en fasse un truc, un peu comme avec les pingouins, quoi. Voilà. Et puis un jour, je me suis vraiment plongé dans les paroles correctement, et je me suis rendu compte, oui, qu'effectivement, il y avait déjà une histoire à la base, hein, avec cette femme qui harcèle son mari pour qu'il aille voir dans la cabane de jardin, parce qu'elle est sûre d'avoir vu quelque chose. Et puis voilà, alors je vais pas raconter jusqu'à la fin ce qui se passe, mais toujours est-il que, voilà, donc c'est parti de là, et je me suis dit, mais voilà, prenons un mec qui se fait chier avec sa femme, et cette femme, pourquoi absolument elle veut trouver quelque chose pour son week-end, pour en fait meubler son week-end dans lequel elle va s'emmerder de toute façon. Donc là, ce soir-là, elle trouve l'histoire de la cabane de jardin dans laquelle il faut absolument que son mari aille voir. Et puis ben voilà, ça commence comme ça.
C'est là qu'on voit que c'est un roman, parce qu'en fait c'est le genre de choses qui n'arrivent jamais dans la vie, bien évidemment.
Non.
Quoi, d'avoir une femme chiante, c'est ça que tu veux dire, ça ?
Non, pas du tout. Non.
Voilà, et donc on va quand même expliquer l'étymologie. Donc je ne sais pas si c'est dans la chanson de Divine Comedy dont on a entendu un extrait. On a remplacé notre générique par ce morceau de Divine Comedy. Mais je dirais l'origine de cette expression qui est tout à fait le type même de l'expression anglaise. Vous pouvez nous raconter qu'est-ce que veut dire quand un homme allait chez son coiffeur chercher quelque chose pour le week-end, s'il vous plaît?
Alors, en fait, c'est une vieille expression anglaise, et d'ailleurs, c'est marqué sur certains vieux salons de coiffure dans la vitrine. Il y a marqué « something for the weekend ». Et en fait, « something for the weekend », quand un coiffeur vous pose la question « est-ce que vous voulez quelque chose pour le week-end ?», c'est un moyen détourné, très britannique, demander si on n'a pas besoin de capote, en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est une vieille expression anglaise qu'en fait, j'ai découverte complètement par hasard. J'étais déjà en train d'écrire le roman. Je pense que le moment où l'explication de cette expression apparaît dans le roman correspond complètement au moment où j'ai compris ce que ça voulait dire. On m'a expliqué, ou c'est une Anglaise qui m'a expliqué ce que ça voulait dire. Voilà, j'avais commencé à écrire le roman sans du tout connaître l'origine de cette expression qui est complètement galvaudée, mais qui existe toujours. Il y a un grand salon de coiffure anglais qui a ça marqué à l'ombre. On m'a envoyé une photo, il y a marqué « Something for the weekend » dans la vitrine. Et apparemment, ça se fait encore beaucoup. Voilà.
Il vaut mieux être au courant des us et coutumes anglaises.
Absolument.
Alors dans ce roman, il y a, enfin, j'avais déjà trouvé ça dans les deux précédentes que l'on a évoquées, mais il y a vraiment des scènes. On dirait que ça va être filmé, quoi. On dirait presque qu'il y a un début de scénario parce qu'il y a des images absolument extraordinaires. Il y a vraiment des choses où vous mettez presque une caméra et presque des spots pour voir, pour illuminer. À un moment donné, il y a des scènes qui se passent nuitamment. Donc, vous imaginez beaucoup des images dans votre tête quand vous écrivez ces scènes ou c'est sorti de mon esprit fumeux d'enrhumé?
Ah non, c'est pas un esprit fumeux du tout. Non, mais en fait, je suis réalisateur, je veux faire du cinéma depuis que j'ai 6 ans. J'ai la chance, non pas de faire du cinéma, mais de travailler quand même à la réalisation. Donc forcément, quand j'écris un scénario où j'ai pas du tout le droit de faire de la psychologie ou de faire des jolies phrases, parce qu'on en a rien à foutre, et l'important c'est l'image, j'ai envie d'écrire un bouquin, et quand j'écris un bouquin, de temps en temps, ça va pas assez vite, et je rêve d'écrire un scénario. Donc c'est une espèce d'entre-deux où de manière naturelle, de toute façon, j'écris des scènes qui sont visuelles, parce que je les ai forcément dans la tête, je vois tout à fait comment ça se passe, je vois très bien les décors, j'ai même pas besoin de faire un plan de décor, les deux concessions Vauxhall et Range Rover qui sont un des décors principaux du film, je les ai complètement dans la tête, exactement comme la maison des Paxton, comme la place sur laquelle va arriver la catastrophe, la plage, enfin voilà, ça vient très très naturellement, j'ai de la chance, hein, je le sais, voilà, donc c'est les images arrivent de la même manière, quoi.
En tout cas, elles sont très bien reçues, parce que c'est vraiment, ça se ressent vraiment à la lecture du roman.
Tant mieux.
On parle donc de l'humour, cette espèce de transgression aussi qui arrive souvent dans les romans noirs, et malheureusement d'ailleurs ils sont souvent un petit peu dénigrés, c'est bien dommage, et toujours cet humour vous écrintignez beaucoup, Et il y a quand même, malgré les fous rires, malgré le côté non sérieux, vous aimez quand même bien égratigner vos contemporains. Je pense en particulier à cette scène où il y a cette espèce de milice complètement improbable qui va pour exterminer les pingouins et ça se termine en massacre général.
Oui. Non mais de toute façon, ça c'est... J'ai écrit ça avant les énormes révoltes qu'il y a eu cet été en Angleterre, donc j'ai pas bénéficié de ces images pour m'exprimer. Mais c'est toujours pareil. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse énormément dans l'écriture, c'est d'avoir des personnages qui sont crétins et de les plonger dans des situations qui vont les rendre encore plus cons. Donc là, on est dans un délire total qui pourrait très bien arriver. J'ai aucun souci là-dessus.
Je pense que on connaît certains de nos contemporains à qui ce genre de choses pourrait très bien arriver.
Tout à fait. Et moi, c'est vrai que ça m'éclatait d'aller jusqu'au bout de la stupidité humaine, mais dans les deux camps, hein, aussi bien dans le camp des écolos que dans le camp des militaires, que dans le camp des flics, que dans le camp du maire, que de toute façon on a l'absurde, mais en fait l'absurde il n'est pas de rien. Les comportements humains complètement débiles, il suffit de passer un quart d'heure sur YouTube et on se rend compte que la plupart des films les plus débiles, c'est ceux qui ont été vus 25 millions de fois. Donc il n'y a pas de secret, les situations absurdes, elles peuplent notre vie, et les comportements de nos contemporains il suffit juste d'ouvrir les mirettes pour regarder, c'est délirant, quoi. C'est complètement délirant. Donc des exemples, j'en manque pas. Et puis c'est vrai que ça me fait plutôt marrer d'écrire là-dessus, quoi.
Ben nous, en tout cas, ça nous fait marrer de les lire. Et justement, alors par rapport à ce que vous venez de dire, finalement, on est dans la situation classique du roman noir. C'est-à-dire qu'on prend un monsieur tout le monde, à qui il arrive quelque chose, qui tombe sur le coin du bec, c'est le cas de le dire, et qui se retrouve dans les romans noirs, très noirs, hein, les romans de Robin Cook, tout ça, qui vont se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et le mec va disjoncter. Sauf que vous, pour disjoncter, ça c'est disjoncter, c'est même déjanter, quoi, carrément. Finalement, on suit les mêmes codes.
On suit les mêmes codes. Je sais pas en fait si j'ai la capacité d'écrire un roman noir, complètement noir. Il faut de toute façon toujours que je parte d'une situation irréaliste, absurde, incongrue pour pouvoir écrire. Et je sais pas, c'est peut-être aussi une fuite, c'est peut-être aussi quelque chose parce que j'ai peut-être pas envie de me remonter les manches et de m'y mettre. Mais voilà, c'est pas particulièrement la littérature que je lis. J'aime beaucoup Tim Dorsey, j'aime beaucoup Westlake.
Serge Storms, vous irez fort bien.
Voilà. Mais bon, j'aime énormément le roman noir pur. Ça, c'est quelque chose qui me fait triper. Mais quand je me mets derrière mon écran, il faut à un moment donné que je fonctionne avec une connerie. Il faut absolument que je fonctionne avec un truc absurde. C'est un peu mon moteur, quoi. C'est un peu mon moteur.
Et d'ailleurs, pour terminer, j'enverrai les auditeurs voir votre blog qui s'appelle Le Petit Laboratoire des Potentialités Globales. Et ça fait un moment que ça dure d'avoir envie de dire des bêtises et de faire rire, parce que vos premières nouvelles, donc où il y a des pseudos ou des vraies photos, je sais pas, vous avez commencé par écrire des nouvelles au dos d'une carte routière, c'est pas bien sérieux tout ça.
Non, c'est pas bien
ou bien
sérieux.
Au dos d'un boc de bière, quand même,
ouais,
franchement.
Ouais. Ouais.
Marqué comme ça, au moins c'est court.
Ouais, c'est court. Là j'étais tenu quand même. J'étais tenu. Voilà. Non, c'était mon premier éditeur, ça, qui effectivement faisait du livre et fait toujours 5 éditions du livre objet, et qui m'avait demandé effectivement de participer à la collection, et donc il m'avait imposé d'écrire une nouvelle pour 6 bocadières. Voilà. Donc, c'était plutôt pas mal.
Eh bien, on arrive au bout de cette émission et on a fait le tour, si je puis dire, puisque le boc de bière nous fait penser à un pub, immanquablement. Pub est en Angleterre, il est à Kirk Bay, et je conseille à tout le monde, s'il n'a pas le temps maintenant, mais pendant les fêtes de fin d'année, de se procurer quelque chose pour le week-end. C'est DOS édition Baleine, avec un joli petit pingouin au milieu de l'Union Jack. Sébastien Gendron, je vous remercie infiniment. Je sais qu'il a fallu vous arranger pour être en direct avec nous. Donc, merci encore. Et surtout, ayez encore plein d'idées comme ça.
Ça marche. Et puis la bise à Jacques que j'ai entendue.
Voilà, oui, non mais je suis assez bavarde, c'est pour ça. Merci beaucoup Sébastien, à bientôt.
Merci.
Au revoir.
À vous, au revoir.
Donc on va terminer l'émission par le même générique qu'au début, c'est-à-dire Divine Comedy et Quelque chose pour le week-end. C'est le titre Something for the weekend, qui a inspiré
Without
Sébastien.
Without the accent.
Without, yes. Bonne soirée.